un colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Le 16 novembre 2006, la Fondation Saint-Gerre-Polignac organisait un colloque consacré aux femmes illustres du grand siècle. La princesse Palatine, Anne d'Autriche, Madame de Sévigné, Madeleine de Scudéry. L'académicien philosophe Jean Ménard, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, a consacré une grande partie de ses écrits à Pascal, l'homme, son œuvre. Jean Ménard, professeur émérite de littérature, est l'un des experts de la culture du XVIIe. Sa communication, le 16 novembre, intitulée « Amitié précieuse autour de Port-Royal », faisait le lien entre les milieux féminins, intellectuels, mondains de Paris et les femmes de l'abbaye de Port-Royal. Retrouvons Jean Ménard devant les invités du colloque à propos de la rencontre de deux mondes, celui de la préciosité et celui du jansénisme.
Il m'est extrêmement agréable d'avoir à prendre la parole sur un sujet qui m'a toujours séduit, celui des rapports qui peuvent exister entre le groupe de Port-Royal et le milieu intellectuel parisien animé par les femmes. L'intérêt du sujet, qui a été entrevu plutôt que saisi par Sainte-Beuve, a été mise en évidence en 1929 par un livre pionnier, œuvre d'une excellente historienne, Cécile Gazier, « Les belles amies de Port-Royal ». C'est le même titre qui m'avait d'abord été suggéré pour ma communication. J'ai préféré l'éviter et je m'aperçois après coup que j'ai introduit une sévère dissonance dans l'organisation de notre journée. Mais après tout, je ne le regrette pas. J'ai préféré l'éviter, d'abord pour ne pas tomber dans une répétition critiquable, et surtout parce que ce titre, parfaitement adapté au livre qui le porte, ne l'aurait pas été au sujet tel que je le voyais, ou tel que j'avais envie de le traiter. Cécile Gazier a voulu tracer une galerie de portraits. Pour ma part, tout en accordant une grande attention aux personnes, j'entendais les envisager dans leurs relations, les insérer dans des courants, et chercher comment des rencontres ont abouti à la constitution de raison. Il s'agissait en somme de montrer comment des tendances semblables ou parallèles ont traversé à la fois le monde de Port-Royal et celui des groupes féminins, et comment les affinités ressenties ont fait tomber les barrières qui auraient pu séparer ces deux mondes différents, qu'on imagine en principe tout à fait opposés. Et que des rencontres ont été provoquées, déterminant la naissance de ces nouveaux groupes que j'appelle réseaux. Ma perspective ne néglige pas la psychologie, mais elle est d'abord sociale et culturelle. Par son titre, Cécile Gazier s'était accordée une facilité, celle de faire le choix des visages qu'elle présenterait, en négligeant les autres. Je me suis, pour ma part, condamné à porter sur mon sujet un regard total et à ne négliger rien d'essentiel. Hors sujet, ce sujet est extrêmement vaste. Comment bien user du temps limité qui m'est imparti? Je crois que j'ai trouvé la solution. Je vais commencer par une sorte d'introduction générale que j'intitulerai « Remarque générale » auquel je tiens et sur un sujet qu'il était difficile de résumer. Et j'ai réservé pour une seconde partie ce que j'appellerai diverses séquences consacrées à des groupes particuliers dont la présentation, selon les cas, pouvait être plus ou moins étoffée et réduite. J'ai déjà conscience que je devrais finir par une énumération parce qu'il y en a trop à présenter et il suffit. Mais l'énumération en elle-même est impressionnante et elle montre à quel point ce sujet que nous abordons nous conduit en des milieux extrêmement nombreux et divers. Les remarques générales sont les suivantes. Ma première sera pour mettre mes pas dans ceux de Madame la directrice des archives et d'observer que le sujet à traiter fournit un merveilleux exemple de tout ce que la recherche d'archives peut apporter, bien au-delà du pur factuel, à la connaissance de l'homme et de la société, dans le passé d'abord, mais aussi par ricochet dans le présent. On comprend aisément que le visage d'un personnage historique puisse être éclairé par les documents d'archives qui le concernent. Mais c'est là-dessus que je voudrais insister. Les documents d'archives permettent aussi de saisir des ensembles, de créer, en créant parfois des associations imprévues. L'une des associations les plus fructueuses que l'on puisse faire en parcourant les archives, c'est d'associer les lieux et les milieux. Quand on rencontre des lieux, quand on définit un lieu, on définit un milieu. C'est-à-dire que les gens qui habitent un même coin Du moins dans le Paris d'alors, ce n'est pas aussi vrai. Dans le Paris d'aujourd'hui, les gens qui habitent ensemble ont unité intellectuelle entre eux et ou morale. Et de même, il y a une des affinités que permettent de saisir les archives entre les individus et les groupes. Ce sont souvent la meilleure façon d'atteindre les individus. Parce que quand on voit quelqu'un d'isolé, on ne saisit pas ce qu'il a de personnel. Certes, la documentation ainsi réunie ne saurait se substituer totalement à celle des témoignages, que j'appellerais les témoignages, apportés notamment par les mémoires et les lettres, et dans le cas qui nous intéresse, par les historiettes de Talmant des Réaux. Mais elle procure un lien nécessaire, une assise concrète, le ciment sans lequel le sujet que j'aborde s'écroulerait ou se trouverait privé d'une grande partie de sa substance. Seule précaution à prendre, ne pas trop entrer dans les détails de cette documentation dont l'exposé dévorerait le temps, si bien que je me mettrai très peu de références. Elles seront en notes, bien sûr, dans mon texte écrit. C'est le principe que j'adopterai ici, sauf dans des cas exceptionnels qui exigent une extrême précision. Alors, je reste que j'aurai à vous proposer constamment, et ce sera peut-être une des curiosités de ce que j'ai à dire, de lire Paris comme un palimpseste. Lire Paris comme un palimpseste. C'est-à-dire, sous le Paris d'aujourd'hui, il y a un vieux Paris, hein, un Paris d'une autre époque. Et c'est dans ce Paris d'une autre époque que nous essayons de vivre, et par là même de mieux comprendre le Paris du présent. La chance veut qu'entre les groupes sur lesquels les archives, je pense surtout au minutier central, mais on pourrait élargir, projettent une très vive lumière, se trouvent d'une part Port-Royal et son entourage, d'autre part les cercles intellectuels féminins. Ce sont deux des milieux les plus enrichis par la recherche d'archives. Les dépouillements et les travaux individuels effectués sur ces domaines ne conduisent pas encore à un terme, mais ils sont parvenus assez avant pour qu'on puisse déjà essayer d'en unir les résultats et tenter une histoire conjointe de ces deux ensembles, en délimitant les secteurs où des interférences s'opèrent. Pour réaliser l'esquisse de synthèse, autre nouvelle remarque, toutes différentes, pour réaliser l'esquisse de synthèse que je voudrais présenter, il faut commencer par éliminer deux obstacles malaisés à percevoir, deux mots abstraits, malheureusement ancrés dans les esprits, dont le domaine que nous explorons s'est trouvé grandement obscurci, d'une obscurité épaisse, les mots « préciosité » et « jansénisme ». Je me rends à la tâche difficile, vous le reconnaissez. Le premier « préciosité » n'a existé qu'au XVIIe siècle que sous la forme de l'adjectif « précieux » et surtout « précieuse » au féminin, lequel ne s'applique en toute rigueur qu'à une tendance particulière, relativement restreinte, plus radicale, développée au milieu du siècle dans ce monde féminin. Plusieurs passages de Talmant des Réaux sont décisifs à cet égard et on trouve une confirmation rigoureuse de Talmant des Réaux chez cet extraordinaire lexicographe qui a été Furtière et qui connaissait merveilleusement son temps et qui, lorsqu'il définit les précieuses, le fait en 7 ou 8 lignes, mais qui sont d'une densité incroyable. On a pris l'habitude, et j'y céderai, de donner aux mots un sens plus large et de l'étendre à tous les groupes intellectuels féminins du XVIIe siècle. On le peut, à condition de s'entendre. L'exemple a été donné en 1660, c'est-à-dire très tôt, pour exploiter le succès des précieuses ridicules de Molière. Prenons quand même l'habitude de distinguer un sens général, à n'employer que d'une façon discrète, et un sens tout à fait précis, qu'il conviendra le cas échéant de définir. Quant au mot « jansénisme », terme qui offre le grand inconvénient de nous écarter de la spiritualité vivante pour nous plonger dans des polémiques de spécialistes, mal comprises du public que nous allons rencontrer, et à plus forte raison du public actuel, tout en nous faisant oublier l'essentiel de Port-Royal. Quand on a employé ce mot, on croit qu'on a tout dit et on n'a rien dit. Je le bannirai à peu près complètement de mon propos. Lorsqu'on élimine ces deux obstacles artificiels, ce qui se produit automatiquement par le recours à la réalité concrète saisie par les archives. Les archives nous permettent de faire l'économie de quelques mots abstraits, parasites. On fait disparaître toutes sortes de faux problèmes. Et l'on abat d'abord cette espèce de mur que venait élever entre le XVIe et le XVIIe siècle l'apparition prétendue de la préciosité et celle du jansénisme. La préciosité et le jansénisme, c'était des nouveautés du XVIIe siècle. Or, si l'on suit la réalité des courants, eh bien, on s'aperçoit que c'est une continuité que l'on rencontre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la période si troublée de la fin du XVIe siècle n'a pas entraîné de graves perturbations dans la vie intellectuelle, beaucoup moins graves qu'on pourrait le croire. En fait, les deux courants, l'un mondain, l'autre religieux, dont il nous appartient de suivre les relations au cours du XVIIe siècle, entre dans un mouvement continu qui nous fait pour le moins remonter jusqu'au début de la Renaissance. À cette étape initiale, dans la partie la plus cultivée de la société, deux types de civilisations s'élaborent. L'un se rattache à l'humanisme, du moins à certaines de ses composantes essentielles, le renouvellement de la culture dans le cadre d'une vie sociale très policée, avec importante participation des femmes, et la proposition d'un modèle humain défini surtout par l'art de plaire. Il suffit de citer Balthazar Castiglione et Marguerite de Navarre, déjà évoqués ce matin. L'autre se réalise aussi par une œuvre d'humanisation, je parle du courant religieux, par l'avènement dans les cloîtres et dans le monde d'une dévotion plus simple, plus vivante, plus authentique, par l'éloignement des subtilités scolastiques et d'une piété conventionnelle, réformes protestantes et réformes catholiques suivant assez souvent des chemins parallèles. Pour nous en tenir au monde catholique, c'est bien en ce sens que se dirigera le Concile de Trente, dont le message sera profondément assimilé par Port-Royal. C'est bien ce que prêchera saint François de Sales, le directeur spirituel le mieux adapté aux femmes et le plus apprécié par la grande réformatrice de Port-Royal que fut la mère Angélique. Deux types différents de civilisation, ai-je dit, mais prêts à trouver un principe de rapprochement dans une intention commune, précisément civilisatrice. Le rapport avec le XVIIe siècle accuse plus nettement encore, comme il est tout à fait naturel, si l'on se place à une époque un peu plus récente, à cet âge d'or de la dynastie des Valois, que fut sur le plan intellectuel, en dépit de la violence des troubles, le temps de Catherine de Médicis, de Charles IX et d'Henri III. Nous retrouvons en pleine vitalité les deux courants que nous avons reconnus, des cercles féminins, comme celui qui se réunit autour de la maréchale de Ray, de la famille que nous retrouvons au XVIIe siècle, et nous avons vu l'image de l'hôtel de Ray sur l'écran ce matin. Eh bien, l'hôtel de Ray, c'est la suite. Il est en plein quartier précieux, et c'est très significatif. Alors, à côté de cela, les tenants d'une pensée religieuse, en même temps que se développent ces cercles féminins, on voit vivre d'une vie intellectuelle intense les tenants d'une pensée religieuse, en même temps que morale et philosophique, qui s'expriment à l'Académie du Palais, chez le roi lui-même, où comportent des gens de loi fort nombreux, avec, entre autres nouveautés, des réserves grandissantes à l'endroit de l'ordre des jésuites. C'est un des traits qui se manifeste. Ça, c'est beaucoup plus profond que la doctrine de Jansénius. Ça va beaucoup plus loin. Et sa conception d'une Église trop fortement centralisée vers la conquête. Voilà préfiguré à la fois les salons et les académies du XVIIe siècle, et souvent déjà l'esprit de Port-Royal. Or, ce double milieu, mondain et religieux, est celui dans lequel évoluent les premiers membres illustres d'une famille qui jouera un rôle moteur dans les événements qui vont suivre, celle des Arnauds. Elle ne cessera pratiquement jamais de nous servir doublement d'introductrice. Elle sera l'introductrice au monde religieux et l'introductrice au monde féminin. J'en arrive aux diverses séquences, et là je me sens tranquille, parce que je peux m'arrêter quand je veux. Les séquences qui suivent présenteront, en expliquant leur genèse, les groupes que j'ai appelés réseaux, c'est-à-dire ceux qui associent une présence majoritairement féminine à des liens d'amitié de portée variable et plus ou moins profonde avec Port-Royal. Ils se succéderont dans un ordre approximativement chronologique, avec toutefois, surtout dans la première moitié dans la partie centrale du XVIIe siècle, des chevauchements tenant à la coexistence simultanée ou à l'interaction de plusieurs groupes. Leur grand nombre me convainc déjà maintenant que je ne pourrais les présenter en détail qu'en m'interrompant en cours de route. Première séquence, je l'intitulerai « Entre Port-Royal et l'hôtel de Rambouillet ». Voilà, nous situons donc deux lieux de la vie religieuse et de la vie mondaine. L'histoire de Port-Royal, je ferai une brève concordance. L'histoire de Port-Royal commence en fait avec la fameuse journée du guichet en 1609, c'est-à-dire lorsque la mère Angélique, jeune abbesse de ce monastère situé alors dans la vallée de Chevreuse, réforme, selon l'esprit du Concile de Trente, le monastère qu'elle gouverne. Et c'est très peu de temps après que se constitue autour de Madame de Rambouillet, c'est-à-dire cette fois-ci rue Saint-Thomas du Louvre, j'aime beaucoup situer les choses dans leur lieu, et le cercle de Madame de Rambouillet. Et je noterai tout de suite que la famille Arnauld, ayant à sa tête un avocat célèbre qui fut aussi un homme d'État, Antoine Arnauld, établi au cœur de Paris, près de l'église Saint-Merry, c'est-à-dire c'est un autre lieu quand même, était catholique, bien qu'elle comportât des membres protestants de tendance modérée, si bien qu'elle se rallia sans peine à Henri IV, et au départ peu tentée par la haute dévotion. Ce n'est pas une famille de dévots. C'est donc une exception que la mère Angélique. Et c'est en fait la mère Angélique qui, par la conversion intérieure qu'elle connut étant religieuse, et qui l'a contraignit à chasser sa famille de son monastère, puisque ça a été son premier geste, et a refusé l'entrée de son monastère à sa famille qui venait la voir. C'était le saint donné à sa réforme. Réalisa paradoxalement la conversion de tous ses proches, mais la famille Arnaud, du coup, est allée à la suite, elle a été entraînée. Et durablement, cette famille a été associée à l'œuvre de la plus illustre de ses membres. Une conversion, la conversion réalisée par les Arnauds, n'entraînait d'ailleurs, en principe, aucune obligation d'abandonner les pratiques de la vie mondaine. Parmi les milieux que les Arnauds étaient amenés à fréquenter, n'a pas tardé à figurer le plus brillant de ceux qu'animaient les femmes. C'est en effet quelques années à peine après l'épisode majeur de la journée du guichet que ce milieu s'est développé. Alors, pour comment se fait-il, et on peut avoir la preuve de ce rapport simplement en lisant Talmandereau. Talmandereau consacre une longue historiette à Madame de Rambouillet, et aussitôt après, il a une notice, une longue notice sur la famille Arnaud. C'est que l'un entraîne l'autre. L'un entraîne l'autre. Ce sont les Arnauds qui peuplent l'hôtel de Rambouillet. Les Arnauds, la famille dans son ensemble. Et si bien que un historien récent de ce monde, éditeur de Talmandereau, d'ailleurs Antoine Adam, croit que les relations de l'hôtel de Rambouillet avec la famille Arnaud ont été provoquées par le fait que la femme d'Arnaud d'Andilly, l'aînée des enfants de l'avocat Antoine Arnaud, j'en ai tout à l'heure, avait épousé une jeune femme de la Bauderie, d'une famille de diplomates liés au marquis de Rambouillet. Mais ça n'expliquerait que les rapports avec Arnaud d'Andilly seul, mais tandis que c'est toute la famille qui est engagée. Et alors là, les raisons sont à chercher beaucoup plus anciennement. Il y a des relations anciennes qui expliquent que la famille Arnaud et le monde de l'hôtel de Rambouillet se sont un peu identifiés. De longue date, l'avocat Antoine Arnaud et son beau-père Simon Marion, autre avocat illustre, les deux familles habitaient le même hôtel, rue de la Verrerie, là, donc près de Saint-Merry, comme je l'ai dit, exerçaient entre autres fonctions celle de chef du conseil, équivalent d'un premier ministre auprès d'un roi, au service de puissantes maisons. Et il y en avait deux qui sont exceptionnelles dans ce cas, celle des Montmorency et celle des Gonzague. Ce sont les deux familles. Or, ces relations expliquent d'ailleurs beaucoup de choses dans la vie des Arnauds. Mais elles expliquent aussi que les Arnauds soient intervenus auprès de Madame de Rambouillet, dont les Montmorency et les Gonzague sont parmi les principaux familiers. Dans l'ordre religieux et politique, le même esprit régnait entre ces familles, ces grandes familles, que chez les Arnauds, catholicisme modéré, solide mais modéré, loyalisme dynastique pour la succession au trône de France. Or, du côté des Montmorency, comme de celui des Gonzagues, des liens étroits, motivés à la fois par la très haute qualité, par des goûts intellectuels communs, par des affinités italiennes, se développent avec les Rambouillet. La vie mondaine dans la chambre bleue en fut profondément marquée, et avec les Arnauds comme témoins et acteurs. Voilà cette première séquence, je vais l'achever ici et peut-être aller vite pour les autres, parce que à partir de là, à partir de ce point de départ qui se situe vers 1620, on peut suivre tout le développement de l'hôtel de Rambouillet. Et parmi les membres de ces familles, alors dans la famille de Montmorency qui va s'éteindre d'ailleurs à ce moment-là, Rémy de Montmorency sera quand même représenté par les Condés. Les Condés sont les héritiers des Montmorency. Le château de Chantilly était au Montmorency. Il est passé dans la maison de Condé avant d'arriver à l'Institut de France. Parmi les personnes les plus belles, voyez, quand on emploie l'adjectif belle à propos des amis de Port-Royal, je me dis, il faudrait y aller voir. Voyez. Mais parmi les belles amies de Port-Royal, il y avait authentiquement la princesse de Condé. La princesse de Condé, mère du Grand Condé. Et c'est une femme extrêmement belle et extrêmement spirituelle. Alors, qui est devenue l'une des gloires de l'hôtel de Rambouillet et qui a fait que l'hôtel de Condé est devenu à lui-même ensuite une suite de cet hôtel d'or. Et les Gonzagues aussi. Et parmi les Gonzagues, il n'y avait plus que des filles, parce que les Gonzagues sont partis en Italie, où ils avaient le duché de Mantoue. Et les Gonzagues étaient représentés par trois filles, dont nous avons déjà entendu parler d'une d'elles, l'Anne de Gonzague, la princesse palatine, ce matin. Et il y en a une qui est encore plus célèbre, qui est la reine de Pologne, Marie de Gonzague. Alors, Marie de Gonzague est une grande amie de la mère Angélique. Elle allait voir très souvent. Et d'autre part, elle a occupé l'hôtel de Nevers, qui se trouve à la place de la Monnaie actuelle, de l'autre côté du Pont-Neuf. Et cet hôtel de Nevers était un centre intellectuel que l'on peut appeler précieux par certains aspects, parce que c'était aussi un centre savant. Il y avait un milieu savant. Donc la reine de Pologne a été très liée avec la mère Angélique dès sa jeunesse, et lorsqu'elle est devenue reine de Pologne en 1645, elle a entretenu une correspondance assidue avec la mère Angélique. Nous avons un très grand nombre de lettres venant de la mère Angélique et qui lui sont adressées. Alors maintenant, mon second, je vais commencer à me contenter des titres. Ce serait les amitiés mondaines du dévot Arnaud d'Andilly. Arnaud d'Andilly, c'est le fils aîné, dont j'ai cité déjà le nom tout à l'heure, de l'avocat Antoine Arnaud. C'est l'un des membres les plus importants de cette famille. Et c'est l'un des plus actifs, l'un des plus agréables. C'est un homme de charme, c'est un homme qui a du charme. Et ce charme, il le fait jouer notamment auprès des femmes. En tout bien, tout honneur. Mais on disait souvent que... Il était très empressé auprès des femmes. Il aimait beaucoup les femmes dévotes. Il aimait les belles âmes, mais surtout quand elles étaient logées dans de beaux corps. Alors, ce rôle d'Arnaud d'Andilly. Arnaud d'Andilly a été le pourvoyeur de ces relations féminines de Port-Royal. Parmi celles qu'il a pourvues, il y en a une des moins connues. C'est une personne qui s'appelait Madame de Saint-Ange. Le château de Saint-Ange est près de Fontainebleau. Et elle a vécu une partie du temps. Elle est devenue religieuse à Port-Royal. C'est vers 1635, alors qu'Arnaud d'Andilly était aux armées comme intendant militaire. C'est à ce moment-là qu'il a gagné cette femme très remarquable. Il a gagné aussi Madame de Guéméné, et etc. Dans le très grand nombre de personnalités féminines que l'on trouve à Port-Royal, il faut compter sur l'exemple de Madame de Scudéry. Alors, mon autre titre, c'est la connivence de Mademoiselle de Scudéry avec Port-Royal. Alors là, c'est encore plus drôle, parce que le monde de Mademoiselle de Scudéry, j'y ai consacré un gros article, donc que voici, je pourrais en parler très longtemps. Alors, je dirais que ce qui est remarquable chez elle, c'est qu'elle a très explicitement marqué son intérêt pour Port-Royal. Alors, il y a deux textes que je cite rapidement. L'un qui se trouve dans les provinciales de Pascal. Dans les provinciales de Pascal, au début de la seconde provinciale, il y a une réponse de Pascal, une réponse du correspondant fictif de Pascal à des admirateurs des petites lettres. Et parmi ces correspondants, il y a une dame qui dit beaucoup de bien des provinciales. Alors, quelle est cette dame? Bien, Racine a vendu la mèche. Et dans un écrit qu'il dirige lui-même contre Port-Royal, 10 ans après, c'est pas très long, il dit, à ce moment-là, il est brouillé avec Port-Royal. Il leur dit, mais vous étiez bien content quand Mademoiselle de Scudéry disait du bien des provinciales. Donc nous savons que cette dame, c'était Mademoiselle de Scudéry. Et comme personne n'a protesté devant cette allégation très répandue, je suppose qu'elle est juste. Autre détail, qui est assez bien connu, mais pas assez exploité à mon avis, c'est qu'il y a dans la Clélie, bien connue grâce à Madame Chantala, ici heureusement présente, il y a une description des solitaires de Port-Royal, dont le héros est un certain Timante, d'un nom conventionnel, qui n'est évidemment l'image d'Arnaud d'Andilly. Il y a une description du monastère, et cette description est une description également fictive, mais symbolique. Allégorique. Ce Port-Royal, c'est vraiment un port. C'est un éloge, alors qu'il n'y a absolument pas... Nous sommes sur le bord de la mer, et d'une mer qu'on peut dire une mer grecque. Et le logis des solitaires, qui est sur une hauteur à côté de Port-Royal, ça devient une acropole. Et le mot n'est pas prononcé, mais c'est bien une acropole, à la grecque. Il y a donc tout un aspect savant dans cette représentation figurée de Port-Royal, mais en même temps, il y a le, quoi que ce ne soit pas dit, parce qu'on ne fait pas de religion dans le roman, vous voyez, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas. L'aspect religieux est dissimulé sous un aspect moral. Donc cet autre aspect montre fort bien les lecteurs de la Clélie en 1657-58 ne pouvaient pas se méprendre sur le lieu qui était désigné là. Et alors maintenant j'en viens au titre, vous voyez, ce sera la séquence suivante, ce sera Madame Port-Royal chez Madame du Plessis-Guénégaud. Ici le nom est moins connu. Il est moins connu, il n'est pas moins important, à mon avis. Il est peut-être moins important, mais il est très important. Avec Madame du Plessis-Guénégaud, nous sommes devant, pourrait-on dire, une émanation du cercle Mademoiselle de Scudéry. Mademoiselle de Scudéry et ses amis occupaient le Marais, le quartier du Marais. Le Marais au sens restreint du terme, c'est-à-dire la partie qui est juste au nord des Archives nationales. Une partie beaucoup plus étroite que ce qu'on appelle aujourd'hui le Marais. Alors, mais il y avait une émanation, une antenne en quelque sorte de ce quartier du Marais qui se trouvait rue des Francs-Bourgeois. La rue des Francs-Bourgeois au XVIIe siècle, elle était très courte, très courte. C'était entre la rue Vieille du Temple et l'hôtel Carnavalet. C'était très petit. Et bien dans ce petit lieu, il y avait trois précieuses, au moins. Il y avait Madame Madame de Saint-Ange, dont j'ai parlé tout à l'heure, il y avait Madame du Plessis-Guénégaud, la famille Guénégaud, et il y avait Madame Cornuel, dont il a été aussi question il n'y a pas bien longtemps. Madame Cornuel habitait côte à côte dans ce quartier. Et ce quartier s'est en quelque sorte transféré à l'hôtel de Nevers, c'est-à-dire le lieu hôtel de Nevers, qui était le siège de la résidence de la future reine de Pologne, est devenu ensuite celui des Duplessis-Guénégaud. Allez, maintenant, ce sont vraiment des titres. Nouvelle séquence, Madame de Sablé à Port-Royal. Ce qui est remarquable dans le cas de Madame de Sablé, c'est qu'elle habitait, à partir de 1656, dans le monastère de Port-Royal, alors que c'était une femme du monde qui recevait beaucoup de visites. Elle habitait au sein même du monastère. Ce détail n'a été établi grâce aux archives qu'à une époque assez récente et il est souvent oublié. Puis, autre séquence, Madame de Longueville et Mademoiselle de Vertu à Port-Royal des Champs. Et elles étaient aussi des amies de Port-Royal et elles se sont fait bâtir des résidences au monastère des Champs. Il faudrait ajouter la spiritualité de Madame de Lafayette, mais nous en entendrons parler, je pense, tout à l'heure. Puis, les lectures de Madame de Sévigné. Madame de Sévigné, c'est plutôt par la lecture qu'elle a été liée à Port-Royal. Alors, il y a une question dont vous trouverez la réponse dans le texte imprimé. Les précieuses ont-elles été des jansénistes de l'amour ? Il y a une définition qui est due, paraît-il, à Ninon de l'Enclos, où les précieuses étaient appelées des religieuses. C'est-à-dire, nous trouvons les deux mots que je récuse, les deux mots ensemble. Alors, comment peut-on jouer avec ces deux mots et expliquer cette expression ? Vous le trouverez plus tard. J'ajouterai Port-Royal, siège d'humanisme et de féminisme. Ce serait le titre de ma dernière séquence. Parce que je me contente de piquer une phrase de Jacqueline Pascal, la sœur de Pascal, au moment des disputes sur le formulaire en 1661, juste quelques semaines avant sa mort. Elle écrit ceci à son amie, la sœur Angélique de Saint-Jean. Puisque les évêques ont des courages de filles, les filles doivent avoir des courages d'évêques. C'est précieux par excellence. Voilà une phrase très précieuse. Alors la publication récente, c'est ma conclusion, la publication récente d'un dictionnaire de Port-Royal a fait ressortir avec éclat la présence massive du monastère dans l'histoire du XVIIe siècle et son rayonnement sur toute la société du temps. Une remarque semblable peut être faite à propos de la vie intellectuelle et mondaine des femmes, notamment de celles qui ont eu la plus vive conscience de leur dignité. Je dirais que cette préciosité suppose que la femme ait conscience de sa dignité. Sinon, c'est autre chose. Mais le plus important est qu'entre ces deux mondes, l'enquête qui s'achève a fait ressortir l'existence de rapports extrêmement riches, variés et continus. Certes, il ne faut pas se méprendre sur la nature de ces rapports et ne pas en exagérer toujours la portée, la signification. On peut remarquer aussi que c'est presque toujours au sommet que les relations se sont établies, en ce que l'élite de chaque corps a recherché l'élite de l'autre corps. Au-delà des différences individuelles, une sorte de culture commune s'était alors élaborée, une culture destinée à devenir, dans la seconde moitié du siècle, la culture classique ou la culture française. Je crois que c'est un bel éloge que l'on peut faire de ces rencontres. Merci à vous.
Vous venez d'entendre Jean Ménard, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui faisait une communication le 16 novembre 2006 à la Fondation Saint-Gervais-Polignac, communication intitulée « Amitié précieuse autour de Port-Royal ».